À deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
C'est sa deuxième fois à l'émission À deux, c'est mieux. Eve Salvaire, salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Eve, tu viens nous parler de ton livre. Je vais le montrer à la caméra, je suis pas habitué. Sois toi et tes belles, biographie. Comment c'est arrivé d'abord l'idée d'avoir ta biographie?
Ah ben j'ai toujours pensé que ça serait intéressant de faire la biographie parce que, je suis adoptée, je suis née avec les fémurs disloqués. Je trouvais ça intéressant comme idée. Puis à un moment donné, en faisant des conférences, quand j'ai commencé ça, il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire un livre en lien avec la conférence. Fait que j'ai jumelé les deux. Puis voilà.
Mais est-ce que c'est difficile de retourner là-dedans? C'est 49 ans de vie avec des hauts et des bas, de fouiller là-dedans. Est-ce que tu as trouvé ça tough?
Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Personnellement, je trouve que c'est un beau travail d'introspection. J'ai vraiment adoré écrire un livre, puis je pense que tout le monde devrait le faire. T'sais, même si tu sors pas un livre-livre, d'écrire ton histoire pour tes petits-enfants, pour les générations, parce qu'on est dans une période de, tu sais, regarde la COVID, ça va-tu réarriver, une affaire de même? Probablement, j'espère que non. Mais, tu sais, c'est... Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là. Puis récemment, j'ai vu, il y a mabiographie.ca.
Oui.
Ça, je trouvais ça vraiment cool, ce site-là. Je l'ai laissé la page ouverte. Je me suis dit, je vais donner ça à quelqu'un à un moment donné, certain.
Pour aider les gens à écrire leur histoire puis laisser ça à leur famille sans qu'ils soient connus. Là. C'est pas obligé d'être des vedettes, là, juste raconter leur histoire.
T'as pas besoin d'être connu, mais on a tous une histoire à raconter. On a tous des hauts et des bas. On a tous appris des choses à travers nos expériences. Fait que c'est intéressant de les partager aux gens.
Préface de Jean-Paul Gaultier. C'est un cadeau, ça, que Jean-Paul Gaultier accepte de signer la préface de notre livre?
Je me pince encore. Je suis vraiment pas sûre que c'est vrai. Je rêve, là. Je suis pas ici, là.
Mais quand tu l'as lu, la préface, t'as réagi comment?
Ouais, ben c'est quel beau compliment. C'est touchant, là. C'est... En tout cas, moi, personnellement, je me bats avec « Je le mérite pas », qui est mon premier... Okay.
Non, c'est correct, vas-y.
Fait que c'est ça. Fait que je me bats avec ça tout le temps. Fait que c'est vraiment un beau compliment. C'est vraiment touchant. C'est vraiment... je me sens privilégiée.
Et parce que c'est lui qui a tout démarré un peu, Jean-Paul Gaultier, pour toi dans la carrière
ben,
de mannequin.
C'est ça. C'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui. Je serais même pas une vedette, tu sais, je serais une petite fille de ma tante. Fait que c'est vraiment, je lui dois tout dans ce sens-là. Mais c'est ça, je l'aime beaucoup, mon Jean-Paul. En plus, il est fin. Je dis pas ça parce que c'est lui qui a écrit ma préface, parce qu'il est famous. Là, il est vraiment très, très gentil comme être humain.
Il y a quelques autres témoignages aussi dans le livre. C'est important pour toi qu'il y ait d'autres témoignages?
Bien, c'est un ami à moi qui me dit, Thierry, Maxime Loriot, il m'a conseillé de faire ça. Il dit, écoute, il dit, t'es ami avec plein de monde, le fun, pour qu'ils puissent avoir un autre point de vue sur toi, tu sais, qu'ils puissent donner leur opinion, pas juste tes amis personnels proches, mais aussi tes amis avec des personnalités connues. Fait que là, tout d'un coup, je me retrouve à écrire un email à Cindy Crawford. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait un matin? Bon, je vais écrire un email à Cindy, là, puis elle m'en va, tabarouette, c'est quoi ça? C'est drôle comme réalité, tu sais, puis on pense que c'est bien ordinaire pour nous autres, mais moi, la petite fille de ma tante, elle capote, là, je suis comme, oh my God, elle m'a actually répondu.
C'était comment pour toi? Parce que c'était l'époque des supermodels. Vous étiez des stars internationales. C'est l'époque Cindy Crawford, Naomi Campbell, toutes ces filles-là. C'était comment les côtoyer? Parce qu'évidemment, c'était rapide, j'imagine. C'était en coulisses, rapidement, avant le défilé. Mais est-ce qu'il y avait une compétition, une relation d'amitié? C'était quoi la relation de vous autres?
On était très proches. On était très proches parce qu'on vivait les mêmes choses. Tu sais, j'ai quelqu'un de proche de moi qui a eu le cancer il y a quelques années. Puis elle me disait qu'elle communiquait avec une amie à elle qui avait le même cancer, mais qui était comme 2 semaines à l'avance dans les traitements, etc. Puis ils se comprenaient, comme 2 alcooliques se comprennent, comme, tu sais, fait qu'on vivait les mêmes choses, les mannequins, puis c'était aucune compétition, bien au contraire, on s'entraidait.
Tu as été adopté, tu l'as dit tout à l'heure, par deux artistes. Est-ce que ça a aidé ton cheminement, t'as l'impression, d'avoir deux artistes comme parents?
C'est sûr que ça a aidé parce que être petite à l'école, puis s'habiller quand même funky, puis être petite à l'école, puis juste faire des dessins partout, partout, ces examens de maths, puis, tu sais, je remettais mes travaux, il y avait tout le temps 1000 dessins dessus. J'étais incapable d'arrêter de dessiner, moi, quand j'étais jeune, puis d'avoir ce support-là. Puis deux personnes, tu sais, mes parents, ils m'ont encouragée là-dedans, ils ont ouvert la porte à tout ça. Puis je me compte très, très chanceuse d'avoir eu ça. C'est sûr que ça a aidé.
Et tu as rencontré ta mère naturelle, biologique. C'était comment ce moment-là pour toi? Est-ce que c'était un souhait? Est-ce que tu voulais la rencontrer?
Non, moi, je voulais pas du tout la rencontrer. Mais elle voulait me rencontrer. Non, mais c'est vrai, je voulais pas du tout la rencontrer. Puis je voyais ça comme très gros, puis j'avais peur un peu de ça à ce moment-là. Je trouvais ça très épeurant, l'idée de rencontrer cette dame-là. Puis je pensais qu'elle m'avait laissé, moi. Fait que je me suis dit, elle m'aime pas. Fait que quand j'ai su qu'elle voulait me rencontrer, ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais pensé toute ma vie. Tu sais, j'avais déjà, quoi, 26 ans, 28 ans. Fait que c'est ça, mais en fait, au début, la première fois qu'on s'est rencontrés, bon, c'était une madame. Je la connaissais pas. Puis, avec le temps, ben là, maintenant, c'est ma mère. Je l'appelle maman. J'ai beaucoup de mamans.
Mais ça a changé quoi, cette rencontre-là, pour toi, pour la suite, après?
Bien, ça a fait en sorte que, tu sais, dans le livre, je parle un peu des personnages qu'on crée, puis je pense qu'on en a tous, des personnages qu'on crée pour le travail ou pour des coping mechanisms. Mais ça a fait en sorte que plusieurs personnages qui étaient des mécanismes de défense pour moi qui sont éteints au moment où je l'ai rencontré, puis j'ai rencontré mes racines. J'ai vraiment comme connu, OK, je viens de là, puis il y a des choses qu'elle est là, que moi aussi j'ai. C'est vraiment extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui... C'est ça, de rencontrer ses parents biologiques pour la première fois, il y a pas, je peux pas le décrire autrement que c'est extraordinaire.
Il y a beaucoup, beaucoup de dessins dans le livre. Tu l'as dit, tu as toujours dessiné. Oui. Est-ce que c'était ta façon à toi, à travers les années, de... On a parlé d'écriture, que ça faisait du bien d'écrire. Est-ce que les dessins, c'était ça? C'était de laisser sortir tes émotions au fil des années? C'était par le dessin que ça se passait?
C'est ça, comme quelqu'un écrirait. Puis maintenant, je dessine plus, ça fait longtemps. Puis j'essaye une fois de temps en temps de dessiner, puis je viens bien frustrée parce que j'ai perdu un peu de la main, tu sais. Ce qui reviendrait après une semaine, mais je viens bien fru. Fait que... mais j'écris. Je savais pas si j'étais correcte à écrire, mais je sais que ça me fait du bien d'écrire. Fait que je fais ça, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est ça. C'est comme écrire dans un journal intime. C'était les dessins à la place. C'est comme ça que je m'exprimais.
Mais est-ce que donc tu as refouillé dans tes dessins pour illustrer le livre?
Oui, oui, oui.
Donc, c'est des dessins que tu avais gardés?
C'est des cahiers à dessins. Écoute, c'est une pile comme ça de cahiers à dessins complètement remplis. Chaque page est remplie au complet.
Ève, tu l'as dit, tu es née avec une dysplasie aux hanches. Tu as failli être... Tu n'as pas pouvoir marcher.
Oui.
Jamais. Donc, c'est un peu ironique d'être mannequin.
C'est la grosse
la
joke.
La job, c'est marcher.
C'est quoi? Ben oui, toi. Puis j'étais censée... Si je marchais, il y avait une forte possibilité que je marche tout croche. Fait que c'est vraiment comme... Je le sentais quand je marchais sur les runways qu'il y a une de mes hanches qui disloque encore très facilement. Puis ça se dit en français, disloqué. Ouais. Puis c'est ça, je le sentais à chaque pas qu'elle faisait « cloc ». Mais sinon, quelle ironie que j'ai pu... Grâce à papa aussi, qui m'amenait... Puis maman, qui m'amenait à la plage, marcher dans le sable et...
Ça a aidé, ça?
Ben, je pense que oui. Okay. Effectivement, je pense que ça... Je sais pas, là, je peux... J'ai pas de connaissances là-dedans, mais j'imagine que ça a aidé. Moi, ça a fait en sorte que j'enlève tout le temps mes chaussures. Dès que l'été commence, je suis nu-pied tout l'été.
Quand le succès est arrivé au début des années 90, quand il y a eu les premiers défilés, t'as géré ça comment, cette attention-là des gens? Parce qu'il me semble que t'es timide dans la vie, non?
J'ai vraiment mal dealé au début. C'était pas le fun. J'aimais pas ça, mais pas du tout. Il me courait après, puis... C'était dans ce temps-là très choquant, mon look, pour le monde de la mode, comme pour monsieur et madame tout le monde aussi, parce qu'il y avait personne qui avait de tatouage, en plus sur la tête, en plus une fille, en plus dans la mode. Écoute, c'était... il me courait après. Puis j'étais comme la martienne du monde de la mode. Puis moi, je détestais ça, une petite fille de ma tante qui n'a pas de... Tu sais, je veux dire, c'est... On veut tous de l'attention, mais là, à ce point-là, c'était un peu trop, là. Je pense que là... Fait que j'essayais de me cacher, j'appelais maman en pleurant, puis je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup mes états d'âme dans mes cahiers à dessin.
Donc, tu disais tantôt que tu te fais des personnages, qu'on se fait tous des personnages. T'en avais un, là, tu te faisais une carapace.
Oui.
Pour passer à travers ça, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible, j'imagine.
Ben, c'est ça. Un beau costume de porc-épic, là. Je zippais ça le matin, puis en way, c'est « Sois belle et tais-toi », puis c'est de là vient le titre « Sois-toi et t'es belle », c'est de me défaire de ce personnage-là, puis de sortir la petite Ève de Matane.
Est-ce que ça fait du bien de parler? Parce que comme mannequin, c'est pas ce qu'on nous demande le plus.
Ben, c'est bizarre au début. Je vais te dire que c'était une roue très carrée pendant un petit bout de temps. À l'écriture du livre, ça a pris du temps avant. Puis c'était drôle parce qu'ils te mettent avec une éditrice qui va t'aider un peu. En tout cas, c'était dans mon cas parce que j'ai jamais écrit de livre. Donc, cette personne-là me disait, ben élabore un peu plus là-dessus. Puis ça, on n'en parlera pas, c'est moins intéressant. Moi, c'était sûr que j'élaborais pas ça. Puis je disais, on peut l'enlever, cette affaire-là. Puis elle dit, non, c'est de ça qu'il faut que tu élabores le plus. Fait que c'était bizarre au début. Puis à un moment donné, bon, j'ai commencé à pogner à twist, là. Puis ça a bien coulé.
Donc, tu t'es découvert une passion pour l'écriture, quelque part?
Ah, je sais pas.
Passion peut-être pas, ouais.
Ben, je trouve que c'est une forme d'expression qui est intéressante. Je suis une artiste multidisciplinaire, donc j'aime toucher à tout. J'ai fait des vêtements, j'ai fait ci, j'ai fait de la musique, j'ai fait... Mais ça en est une autre. Une autre corde à mon arc que j'ai bien aimée. J'ai trippé.
Évidemment, dans le livre, on aborde ton coming out. Et tu mentionnes que ça a pris du temps avant que tu l'acceptes.
Oui, je m'acceptais pas comme ça. Selon moi, c'était... une autre affaire de pas correct avec Ève Salvaille, tu sais, c'est... J'étais déjà marginale, déjà artistique, déjà... Puis là, après ça, le tatou sur la tête, la première mannequin rasée, c'était... Il y avait rien de moi qui était normal. En plus, rajoute, elle est gay. Puis là, plus tard, est alcoolique.
Mais donc, ça a tout pris pour que tu l'affiches toi-même, que t'es gay?
Ça a pris beaucoup de temps, puis j'essayais de sortir avec des garçons, puis je comprenais pas, je tombais pas en amour avec, puis... Mais j'ai vraiment essayé très, très fort d'être straight pendant longtemps. Puis à un moment donné, bon, ben j'ai lâché prise avec une amie à moi, Tyra Banks, qui faisait une émission de télévision, hein? Puis elle m'a demandé de faire mon coming out là. Fait que j'ai
elle fait... le savait?
Tout le monde le savait, c'est juste que j'avais jamais parlé aux journalistes de ça. Je le disais pas à voix haute. Parce que selon moi, de toute façon, les hétérosexuels se présentent pas en disant « Bonjour,
non,
moi... » Fait que c'était intime pour moi. Ça me regardait juste moi. Mais là, c'est ça. Elle m'a demandé de faire le coming out en disant « Ben écoute, mon émission passe dans des petites régions où est-ce qu'il y a des gens qui ont ce même struggle-là que tu avais. » Fait que je l'ai fait.
Mais t'as reçu des témoignages. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important ce que t'as fait, non?
Bien, c'est comme ça que c'est exactement ça. C'est avec les témoignages, on se rend compte. Même avec le livre, j'ai reçu énormément de témoignages de personnes qui consomment, de personnes qui ont les mêmes peurs puis les mêmes problèmes que moi. Puis c'est extraordinaire. C'est là que tu vois que, OK, j'ai une voix. Fait que je peux l'utiliser à bon
escient.
Merci, c'était le mot que je cherchais.
Ça fait quelques années que tu es revenu au Québec, t'es installé ici. Est-ce que ça fait du bien de déposer ses valises, et même si c'est le fun de voyager, là, d'arrêter ce rythme de fou-là?
Ah oui, écoute, j'ai contrairement aux gens normaux, j'essaie de pas voyager. Je suis tannée de voyager. Puis j'ai voyagé d'une manière qui n'était pas vraiment... pour avoir du fun. C'était non, voyager pour le travail. Donc, j'avais jamais l'opportunité. J'étais dans un pays que je connaissais pas, mais je pouvais pas le découvrir. Je pouvais pas savoir les rites, la culture, la bouffe, rien. J'avais pas le temps. J'étais là, puis après ça, je repartais. Boum! Fait que de voyager, c'est pas vraiment... Puis d'être proche de ma famille, puis de pouvoir vraiment passer du temps avec ma famille, c'était important pour moi aussi. Fait que je suis revenue au Québec, ça fait 4 ans à peu près. Puis je suis tellement heureuse. Écoute, ça n'a pas de bon sens.
Est-ce que c'était un des bouts qui était tough, ça, de ne pas voir ta famille pendant tout ce temps-là? Très évidemment, difficile. Tu revenais, j'imagine, les voir un peu, mais pas
beaucoup.
Pas tant que ça, parce que tu étais toujours partout. Ouais.
C'est ça. Je pouvais pas. Je pouvais carrément pas revenir tant que ça. Je les appelais beaucoup. J'ai toujours été en contact via le téléphone parce que c'est avant l'ère des Zoom puis des FaceTime. Mais c'est ça, j'ai toujours été très, très proche de ma famille. T'sais, on se parlait très, très souvent, mais effectivement, je les voyais pas assez.
Est-ce que ça a été dur d'arrêter ce métier-là?
Je pensais pas, mais oui, ça a été dur. Je me suis habituée un peu comme une addiction à toute cette attention-là, à tous ces sous-là, à toute cette gloire-là. Puis au début, j'avais un petit peu de difficulté à dealer avec le « Oh, OK, le téléphone sonne pas, là. » C'était toute une autre réalité. Ça a duré peut-être un an.
Est-ce que les mannequins ont ça dans la tête quand ils commencent, de dire, on le sait que c'est une carrière courte, là, ça ne dure pas pour la vie, cette carrière-là. Est-ce qu'on se le dit quand on commence ou pas?
Non, c'est ça. Ben, en tout cas, dans les années 90, puis quand moi j'étais là, tous les mannequins avaient beaucoup de difficultés à investir leur argent.
Mettre l'argent à côté.
Oui, oui, toutes ces choses-là, puis de voir que, OK, après ça, il va falloir que je... Puis je ne sais pas si c'est comme ça avec les athlètes, mais je compare souvent avec les athlètes parce que tu fais ça... du matin au soir pendant des années depuis ta tendre enfance, puis là, tu te prépares pour ces compétitions-là puis pour ces médailles d'or-là, mais à un moment donné, ça arrête. Qu'est-ce que tu fais après? Pas de curriculum vitae, pas d'expérience de travail, pas de... Tu sais, t'as rien, là. Tu connais juste ça. T'as une discipline incroyable, mais moi aussi, j'avais une discipline incroyable, mais j'avais pas de... J'étais pas normale. Fait que c'est ça.
Ça ressemble à quoi, la routine d'un mannequin international? Est-ce qu'il y en a une routine, d'abord?
Ouais, c'est...
C'est qu'il n'y en a pas de routine,
disons,
finalement?
Ouais, c'est ça. Puis c'est une routine qui n'est pas vraiment santé, comme un athlète. Ça, là-dessus, on est complètement différents. Eux autres, ils mangent, nous, non. Non, moi, je mangeais très bien, mais la plupart des mannequins, c'est peut-être pas le cas. Pas de dormage. Puis dans les années 90, il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de parties, beaucoup d'alcool, beaucoup de cigarettes, beaucoup de n'importe, c'était n'importe quoi, là. Fait que là, c'est ça. Je regarde, ma copine est athlète professionnelle, je regarde son mode de vie, tu sais, quand elle me décrit qu'est-ce qu'elle faisait, puis wow, je regarde juste comment elle mange, elle se lève tôt, ta-ta-ta, c'est vraiment comme super santé, moi. Quoi?
Et vous, c'est que ça commençait très tôt le matin, puis le soir, il y avait encore des trucs, parce qu'il y avait des défilés, il y avait des parties où les mannequins étaient invités, engagés de façon corporative, tu sais.
Exactement.
Donc, c'était toute la journée, jusqu'à très tard. 24
heures sur 24, parce qu'après ça, tu sautes dans l'avion, puis là, tu t'en vas, puis là, t'es décalage horaire, gna gna, ça finit plus, là. Ça finissait plus. J'avais vraiment aucune seconde à moi-même. Fait que de là, l'importance de m'exprimer dans mes cahiers à dessin, parce qu'il fallait que ça sorte à quelque part.
Ouais.
J'étais tout le temps droite. J'avais tout le temps le cou étiré, comme je le suis présentement, mais j'étais tout le temps comme ça, 24 heures sur 24. Tu sais, c'est un moment donné, il faut que ça sorte à quelque part, sinon tu vires fou, là.
Et c'est dur d'avoir des amitiés aussi, j'imagine, parce que c'est jamais le même entourage.
Oublie ça. T'as pas d'amitié. C'est vite, 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 vite. Fait, je te rencontre, puis je te reverrai pas avant...
Oui, c'est ça.
Peut-être jamais.
Ouais.
Exact.
Eve, tu parles de ta dépendance à l'alcool dans le livre. Évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y avait pas de routine, il y a des parties, il y a tout ça qui circule. Est-ce que c'est comme ça que ça commence, les premiers verres dans des événements comme ça?
Oui. C'est sûr que c'était une... disons que si t'as pas la maladie de l'alcoolisme, peut-être que ça aurait été plus facile dans mon milieu dans les années 90, mais sinon, il promouvoit, en tout cas, dans les années 90, la consommation de toutes sortes. Fait que ça a commencé là, puis ça a juste continué, mais ma découverte de ma substance de choix, qui est l'alcool, s'est faite avec le DJ.
OK.
Parce que j'avais pas vraiment bu assez pour découvrir c'était quoi vraiment le feeling. Puis j'avais peur de vomir.
Ouais.
J'ai peur de vomir.
OK.
Fait que c'est ça. Fait que j'avais vomi à un moment donné dans ma tendre enfance en essayant de boire. J'avais vomi, puis j'aurais dû voir les signes parce que je me suis rendu là, tu sais.
Ouais.
Première brosse.
Et là, donc, c'est en DJ, comme DJ, que tu as commencé, que c'est devenu vraiment plus un problème?
Oui, c'est devenu plus... c'est rapidement, puis je peux pas te donner une date, je sais pas. J'essaie de me rappeler où est-ce que ça a commencé à être un problème, puis que c'est que le fun est fini, puis que ça a commencé à vraiment être pas le fun. Mais sournoisement, c'est devenu un très gros problème.
Et comment on s'en sort? Il y en a qui essaient de s'en sortir tout seul, il y en a qui vont avec de l'aide. Toi, est-ce que ça t'a pris de l'aide pour t'en sortir?
Oui, moi, j'ai demandé de l'aide. En fait, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, puis c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, que c'est important de demander de l'aide. Pas juste, tu sais, mais avec tout. Parce que là, on a des problèmes de santé mentale avec ce qui se passe maintenant, ou même à savoir où est-ce que, tu sais, je suis perdue en char, arrête, demande de l'aide. Mais c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui va te taper ses doigts si tu dis « j'ai besoin d'aide ». Tu sais, tu demandes de l'aide à quelqu'un, que ça soit avec ton sac d'épicerie pour monter les marches ou n'importe quoi. C'est, les personnes, c'est, ça leur fait plaisir.
Mais pour demander de l'aide, il fallait que tu reconnaisses qu'il y avait un problème.
Oui, puis il fallait que je passe par-dessus mon ego, parce que moi, je suis Eve Salvaille, puis moi, je m'organise tout seul, puis moi, je suis bonne, puis pas besoin de toi, moi. Fait qu'il fallait que je passe par-dessus l'ego d'abord, puis dire, OK, bon, ben j'ai vraiment, je suis plus capable, là. C'est vraiment, là, puis tu sais... À coup de 2x4 dans les genoux, à un moment donné, tu tombes à terre à genoux, puis t'es comme « Ah, OK, bon. » J'ai même demandé à Dieu de l'aide. Je crois pas en Dieu, là.
Mais tu t'es rendu jusque-là, en fait.
Mais hein? C'est ça. C'est comme tellement désespéré que c'était comme « Aide-moi, parce que moi, je suis plus capable, là. »
Et est-ce que ça nuisait à ton travail aussi? Parce que souvent, souvent ceux qui sont alcooliques réussissent à ce que ça paraisse pas tant.
Moi, c'était ça le problème, c'est que ça paraissait pas. Tout ce que tu vois de moi, là, tout, jusqu'à il y a 4 ans. Les films, les entrevues, tout. Je suis complètement pété sur quelque chose. Mais complètement, là, fini, là.
Puis ça paraît pas.
Il y en a que ça paraît, mais vraiment très
mais
peu.
Mais toi, tu le sais. Mais moi, est-ce que les gens te le disaient, ce qui se paraissait? Est-ce
non.
que tes collègues de travail, ceux avec qui tu as travaillé, est-ce qu'ils t'en parlaient?
Même que des amis quand même assez proches étaient étonnés. Pas mes proches, ils savaient bien, mais des amis, comme, ils étaient comme, ben, t'as pas de problème d'alcool, pourquoi tu rentres chez les AA, t'es bien correct, tu bois juste normal, là. Mais c'est que je le cachais, puis je le cachais bien aussi, tu sais, jamais je parle en même.
Ouais, j'en vois. Et il y a eu rechute à un moment donné.
Non, il n'y a pas eu rechute. Okay. Oh, mais... ben, j'avais arrêté les drogues, puis à un moment donné, j'ai découvert l'alcool.
Ouais.
Fait que...
La rechute a été là. Ouais.
Ça peut être considéré comme ça, effectivement.
Mais est-ce que ça fait du bien quand on réussit à s'en sortir?
Ben, c'est un jour à la fois. Hein. C'est toujours difficile. C'est toujours une pensée qui est là. C'est toujours, selon mon état d'âme, il faut toujours que je fasse attention à ça. Ils disent en anglais, « The first drink is but an arm length away. »
OK.
Fait que mon premier verre, là,
il est à un bras.
Puis là, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Fait que ça aussi, je trouve ça difficile. Ça, je trouve ça plus difficile encore.
Puis tu fumais depuis quel âge?
Bon, on n'en parlera pas.
Non, mais plus c'est long, plus c'est tough, évidemment, quand ça fait partie de notre vie depuis tellement longtemps.
S'il vous plaît.
T'as arrêté pour quoi? Santé, carrément.
J'ai arrêté parce que c'était le temps d'arrêter. Puis j'ai eu de l'aide, ça aussi. Tu vois, là, j'étais habituée de demander de l'aide, fait que j'ai demandé de l'aide. Puis j'en ai parlé à ma copine qui, elle, est athlète, comme je disais tantôt. Donc, ça m'a aidée parce qu'elle m'a dit « Ah, ben tu pourrais courir » ou « Ça me prend quelque chose, moi. »
Pour faire de quoi, ouais, c'est
ben,
ça.
C'est ça, là. Toutes les fois où est-ce que je prenais un break pour une cigarette, là, j'étais assise sur le divan à rien faire, comme « OK, c'est ce que je fais. » Fait que j'ai commencé à faire de l'exercice, puis à bien manger, puis à... Tu sais, j'ai changé complètement mon mode de vie, puis j'en suis fière.
De combattre ce problème-là d'alcool quand on est DJ, est-ce que c'est pas simple? Parce qu'évidemment, l'alcool coule à flot dans les soirées de DJ, et on t'en offre aussi, j'imagine.
Oui. T'as tout le temps un dealer pas loin, puis t'as tout le temps... Ça, c'est moins qu'un bras.
Ouais. Fait que... puis en plus, c'est gratis.
Oui, c'est gratuit, c'est à volonté. Puis ils disent tout le temps que les DJ, on joue mieux quand on est sous. Écoute, il y a des fois, j'avais de la misère à me tenir debout, mais je jouais tellement bien. Puis je me suis rendu compte, en fait, la plus grande peur, c'était que je serais pas capable de jouer bien, de bien jouer à jeun. Puis finalement, je joue très bien à jeun. Mais c'est sûr qu'il faut pas que tu restes dans ta tête, là. Si tu fais une... Tu sais, quand t'es sous, si tu trébuches à quelque part dans le mix, bon, ben, t'en fous, t'es sous. Mais là, c'est je le sais que j'ai trébuché, tu sais. Mais c'est ça, c'était quelque chose au début, puis là, maintenant, je suis contente. Je suis fière à chaque fois que je réussis à jouer, parce que je me rappelle du mix que j'ai fait. Des fois, je fais des passes écœurantes, puis le lendemain, je m'en rappelais plus. Fallait que je regarde dans mon ordi, parce que les tunes, ils viennent en vert quand t'es à jouer, tu sais. Mais je suis tellement contente de plus avoir ça, puis revenir à la maison, ben c'est le fun, je peux prendre mon char maintenant.
Est-ce que le souhait en racontant ça, ce combat-là contre l'alcool, c'est d'aider quelqu'un?
Exactement.
De faire ce qu'on a fait avec toi, mais pour quelqu'un d'autre, de venir en aide, puis que quelqu'un se dise « Ah, ben ça se peut, je peux m'en sortir. »
Oui, c'est ça, si Eve Salvaille est capable. Mon premier gig de DJ, c'était avec Elton John.
Quand même.
<C'est> pas... Fait qu'Elton John jouait, puis moi je jouais après. Puis là, j'étais très nerveuse, puis j'étais sûre que j'allais boire. En tout cas, j'ai fait 20 appels avant le truc, pleuré au téléphone, les fossiles en way, on remet les fossiles. C'était l'enfer. Fait que, puis pendant mon gig, j'ai dit ça à quelqu'un, puis il m'a dit: mais tu sais que Elton John est dans le mouvement, ça fait plus de 30 ans. J'étais comme: eh! Ben voyons donc. Fait que ça m'a aidé. J'ai dit: Christy, si lui peut le faire, Elton John, là, écoute, c'est pas rien, là. Si lui est capable de surmonter ça, peut-être que moi, j'ai de l'espoir. Fait que je me dis, bon, ben, si Eve Salvaille est capable de faire ça, peut-être que toi aussi, t'as de l'espoir. Je suis pas Elton John, par exemple.
Mais t'as travaillé la même soirée, quand même. C'est...
Ben, j'ai travaillé avec lui, puis si lui est capable de le faire, toi aussi.
Eve, t'as une carrière internationale, donc est-ce que le livre va voyager à l'international, parce que t'es connue partout?
Oui, il sort le 18 février en Europe.
OK, et donc là, ça va être difficile d'aller faire la promo.
J'imagine que la promo va être faite sur Zoom.
Oui, c'est ça.
FaceTime.
Et c'est ce que tu me disais, t'es bonne avec Zoom maintenant.
Oui, je suis pro du Zoom. Écoute, je peux te montrer ça, si tu veux. T'as organisé ça.
Est-ce qu'il pourrait sortir en anglais?
Je le souhaite vraiment de tout cœur qu'il soit acheté par une maison d'édition. Il faut qu'il soit acheté par une maison d'édition qui fait des livres en anglais pour qui font des livres aux États-Unis, ou en anglais, canadien-anglais. Mais je le souhaite parce que la plupart de mes... Tu sais, j'étais 23 ans, j'habitais à New York, donc la plupart de mes amis parlent anglais. Et ils sont très déçus de ne pas l'avoir encore en anglais. Mais j'ai l'impression que ça devrait... gardons espoir. Lançons ça à l'univers.
Est-ce que c'était bizarre de fouiller dans les photos? Est-ce qu'il y a beaucoup de photos dans les livres? Des photos de toi très jeune, des photos dans ton enfance, des photos avec plein de personnalités connues. Comment tu as vécu ça, cette fouille-là, ces recherches-là, de retrouver ces photos-là, puis de revivre un peu ces moments-là en même temps?
Ben, j'ai aimé ça, les photos d'enfance. C'était le fun. Puis les dessins d'enfance, mes parents ont vécu un moment difficile l'an passé. Ils ont passé au feu.
Okay.
Puis il y a beaucoup de mes dessins d'enfance et des photos de la famille qui ont été brûlées dans le feu. Puis fait que c'était de retrouver ce qu'on pouvait, t'sais. Fait que les dessins qui se retrouvent dans le livre, mes dessins d'enfance du livre, c'est les seuls qu'il y a. Puis je dessinais, là, tout le temps. Fait que ça m'a presque attristé, puis en même temps, je trouvais ça intéressant de regarder ces dessins-là, parce qu'il y a plein d'affaires que je fais encore, comme mon nom, mon logo, je le fais toujours avec les deux E face à face, puis je me suis aperçue que je faisais ça, je devais avoir quoi, 5 ans? Sur le premier dessin, quand tu ouvres le livre, je devais avoir 5 ans, puis j'avais écrit mon nom avec les deux E qui se faisaient face, comme je le fais maintenant. C'est vraiment bizarre. En tout cas, c'était le fun.
Il y a un bout sur ta carrière au cinéma.
Oui.
Quel regard tu as sur ce moment-là de ta vie où tu as joué dans quelques films?
Ben, je me suis aperçue que c'est pas mon domaine. Je ferais pas ça tout le temps. J'ai trouvé ça difficile de faire l'actrice.
OK.
Je trouve qu'il faut se dévoiler beaucoup, il faut se rendre vulnérable, il faut démontrer nos émotions, puis c'est quelque chose que j'ai passé ma vie à pas faire.
Ouais.
Fait que là, tout d'un coup, tu me demandais de les démontrer. J'ai trouvé ça difficile. Fait que ça serait peut-être pas une carrière que je poursuivrais. J'ai adoré mes expériences, mais c'était pas... C'est ça, c'est pas quelque chose qui me fait tiquer autant que les autres choses que j'ai touchées à date.
Un jour, tu décides de te faire tatouer sur le crâne un dragon. Ça devient ta marque de commerce. Uh-huh. T'es retourné te faire tatouer.
Ah, c'est
il y a quelques jours, ça fait pas si longtemps.
Non, non, ça fait une semaine.
Pourquoi t'as voulu y retourner?
Ça fait encore mal, d'ailleurs.
Ouais, j'imagine, ben, c'est comme pas un endroit simple. Ça doit être un des pays places.
Pendant le tatouage, j'étais comme, t'es donc bien innocente. Pourquoi t'as...
deux fois.
Pourquoi? Pour la deuxième fois, me semble, t'aurais appris la première fois. Jamais 203, le gars, il me dit, il est super bon, Jean-Roch, il dit, ben, on se voit dans 30 ans.
À 80 ans.
Oui, c'est ça. Il dit qu'il a déjà tatoué quelqu'un à 84.
Peut-être pas sa tête, par exemple.
Non, pas sa tête. Il y a rien que moi qui est assez folle pour faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais le refaire parce que c'est sûr, un tatouage, ça pâlit avec les années. Puis comme j'ai eu les cheveux bleachés très souvent, bon, ben, décolorés, je devrais dire, ben souvent, ça a peut-être aussi pas aidé, puis aller au soleil, etc. Donc, on le voyait presque plus, mon tatouage. Puis je trouvais ça plate parce que là, mes cheveux commencent à être gris. Puis c'est le fun, on voyait, quand il pousse un peu, je vais vous le montrer.
Ben oui.
Fait que quand il pousse un peu, ben là, on le voit à travers, mais on le voyait plus parce qu'il était trop... Anyway. Fait que j'aimais ça le faire, puis ça faisait comme un an ou deux que j'y pensais, si c'est pas plus, mais j'étais comme, ben non. Tu n'iras pas faire ça. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une petite crème.
Pour geler.
Ça engourdit. Ouais. J'ai été à la pharmacie, j'ai demandé à la madame pour la petite crème, puis elle m'a donné la petite crème. Ça a aidé à 5 % à peu près. Fait déjà mieux.
Oui. C'est quoi ta relation avec ce tatouage-là au fil des années? Parce qu'au début, ça a été sur un coup de tête. Ça a été ta marque de commerce, mais l'as-tu déjà détesté?
Non. C'est mon tatouage. Je l'aime.
Parce qu'évidemment, tu devenais le centre d'attention, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ben puis oui. T'as perdu des contrats aussi, à un moment donné.
Ben j'ai perdu des contrats, c'est sûr. Au début, je voulais être la première mannequin rasée avec un tatouage sur la tête. Ça a mal passé, mettons. Mais j'ai réussi, en me mettant une perruque sur la tête, à aller chercher un agent pareil.
Qui fait l'a que, appris après.
Qui l'a appris après. Oups! Mais c'est ça, finalement, ça servirait pour le bien pour eux, comme pour moi. Non, je dois tout à ce tatouage-là, puis qui était vraiment comme juste un, comme tu dis, un peu un coup de tête, un peu une idée folle de mon père, puis tu vois, voilà, je sais pas, c'est je lui dois beaucoup à ce fait oui. Que c'est ça, je voulais lui faire honneur, puis le faire revivre, parce qu'on le voyait presque plus, puis je trouve ça le fun de le voir, là, je suis toute énervée, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je suis comme, oh! J'ai un nouveau, c'est comme un facelift. Je suis toute jeune sur ma tête.
Et j'imagine que les gens t'en parlent encore toutes ces années-là plus tard, parce que ça a été vraiment ton brand, c'était ta marque de commerce, c'était ça.
Ben oui, c'est sûr. Puis je peux pas vraiment le couvrir. T'sais, quand je laisse pousser mes cheveux, je suis, dans un sens, je suis méconnaissable. Tandis que quand je suis fraîchement rasée, je vais au IGA me dire, c'est pas discret. S'ils me reconnaissent pas, ils disent, c'est quoi ça?
Tu fais des conférences depuis quelques années.
Oui.
Et comment c'est arrivé d'abord les conférences dans ta vie?
Un ami à moi m'a appelé pour faire... ça s'appelle Phil Camp. Fait que c'est sur l'échec. C'est des conférences vraiment sur l'échec en français. Et c'est ça. Moi, je l'ai faite sur l'échec et la perception de l'échec parce que selon moi, il n'y a pas d'échec dans la vie à part pour la mort. Puis encore là, c'est pas un échec.
Ben non, ça fait partie de la vie.
Ben c'est ça, c'est avec les échecs qu'on apprend. Fait que c'est ça. Puis j'ai beaucoup aimé, j'ai eu la piqûre tout de suite. Pas comme actrice. Le métier d'actrice m'a pas piqué, mais celui-là, j'ai eu la piqûre tout de suite. J'ai adoré ça. J'ai adoré que j'étais nerveuse assez, que j'avais de la misère à parler, la bouche sèche, le cœur. Puis j'ai aimé l'idée de transmettre un message. Un peu comme un livre, mais là, c'était de vive voix.
Mais c'est la première fois, j'imagine que c'est terrible, parce que, comme je disais tantôt, on t'entendait pas souvent parler comme mannequin. Là, il y a plein de monde qui viennent...
Je vais mourir.
T'écouter parler. C'est ça, la conférence.
Je vais mourir. J'ai pas dormi pendant 2-3 jours avant la conférence, puis durant la conférence, il y a eu une vidéo qui a été faite de cette conférence-là. Je suis même pas capable de l'écouter. Ça me fait trop... J'ai mal pour moi. C'est incroyablement painful. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, tu sais, au début. Ouais. C'est sûr, quand on commence un nouvel emploi, que ça soit n'importe quoi, on est boboche, puis on fait des erreurs niaiseuses que 2 ans plus tard, on est comme, aïe, je peux pas croire que j'ai fait cette erreur-là. Mais c'est comme ça, il faut apprendre.
Et j'imagine que ça t'a aidé pour ton livre, parce qu'il y avait un bout de réflexion qui était déjà fait avec la conférence. Il y avait déjà un cheminement commencé pour toi.
Probablement. Il y avait une fin, puis il y avait un début. Puis cette espèce de... Ouais, cette espèce de structure-là m'a aidé un petit peu à penser, OK, bon, ben, il faut, un livre, il faut que ça ait une fin puis un début. Moi, j'ai tendance à être plus de pensée de spaghetti. Je vais partout, tu le vois quand tu fais une entrevue de moi, je pars, je vais partir loin du sujet bien vite.
Donc, un livre, ça prend une structure. Oui. Donc, ça t'a amené à ça. Ça t'a forcé à ça, en tout cas.
Ben c'est bon. C'est une belle discipline. C'est une... C'est, je peux pas dire que je suis bonne là-dedans, mais j'ai appris beaucoup de choses. Puis j'ai appris à avoir une certaine discipline de structure. Mais ça veut pas dire que ça a structuré le spaghetti, là.
Est-ce que ça fait du bien de faire un bilan avant tes 50 ans?
Non, c'est vrai, je vais avoir 50 ans au printemps. T'imagines? J'avais même oublié. Je trouve ça intéressant de faire un bilan, puis il va peut-être en avoir d'autres, un peu comme ce qu'on parlait de ton livre. Je veux dire, on est jeune pour écrire un livre, puis on se dit, bon, ben je vais faire ça quand je vais être vieux, mais c'est le fun de faire une pause dans le milieu, puis de se dire, ben probablement que plus tard, maintenant que je l'ai fait, ça va aller plus vite aussi, ça va être plus le fun, puis... Fait que c'est ça, oui. J'ai hâte au deuxième, un peu comme toi.
Ta blonde a réagi comment quand le livre a sorti? J'imagine qu'elle en savait déjà beaucoup.
Non,
là-dessus.
J'ai gardé tout secret de ma famille avec qui je partage vraiment tout. Puis ma blonde aussi, je tenais à le faire vraiment juste avec... Fait que mon éditrice était la seule qui savait ce qu'il y avait dans le livre jusqu'à ce que, un petit peu plus tard, il y ait d'autres étapes de fait. Fait que ma blonde, elle a lu le livre pour la première fois, puis elle était analyste sur le Tour de France, fait qu'elle avait même pas le temps de le lire. Parce que c'est
analyste à distance, donc, j'imagine.
Analyste à distance sur de chez nous, mais quand même, c'était beaucoup d'heures de travail, donc elle n'avait pas le temps de se mettre la tête là-dedans. Fait que quand elle l'a lu, c'était drôle parce qu'elle était à côté et elle dit « Hey, telle affaire est arrivée! » C'est vraiment cute. « Hey, tu parles de moi! » Je dis « Ben oui!
» Est-ce que c'est bizarre que notre blonde ait accès à tout ça?
Non.
C'est
non,
rare
non.
qu'on connaît autant quelqu'un jusqu'au début. Là. Puis...
Ben, elle avait entendu plusieurs de ces histoires-là, mais effectivement, c'est beaucoup de choses que j'aurais pas besoin de dire, tu vois.
Et il y a des trucs que tu fais qu'elle comprend maintenant.
Oui, sûrement.
C'est d'où ça vient.
Sûrement, c'est vrai, hein? J'avais pas pensé à ça, même que moi, je comprends que je savais pas que je faisais, puis je l'ai compris en écrivant le livre, puis...
La dernière fois que tu es venu nous voir, c'était pour les ODs avec
oui.
Pascal. Comment ça se passe de ce côté-là? C'était les débuts, la dernière fois? Comment ça va pour les ODs?
Ben, ça va bien. Les ODs, c'est pas là, sont en vente. On a réduit nos prix exclusivement. Puis c'est ça, ça roule. Puis Pascal aussi continue. Là, il vient de sortir un petit vidéo de Noël que j'ai écouté ce matin. Okay. C'est super cute. Écoutez-le, allez voir sur pascallavebelle.com. Puis vous allez pouvoir voir ma collection en même temps.
Ève, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci. Je t'adore, moi.
Moi aussi. Est-ce qu'on peut te suivre sur le web? J'imagine que oui. Il y a ta page Facebook.
Oui, j'ai une page Facebook. C'est I am Eve Salvay. Puis sinon, sur Instagram, Eve Salvay.
Merci beaucoup d'avoir été là.